Bonjour, moi c'est Joachim Duté, je suis président d'une association qui est basée à Angers, qui s'appelle Terre d'Initiative, qui a été créée il y a 2 ans avec des amis. On travaille principalement sur tout ce qui est agriculture paysanne et biologique. On centre nos activités en fait sur la rencontre d'agriculteurs, enfin d'acteurs agricoles en France et à l'international qui développent ces thématiques-là pour voir concrètement comment c'est mis en place et quels bénéfices ça apporte pour l'agriculteur et pour les personnes qui sont autour de l'agriculture sur le territoire. On a fait des études en école d'agriculture et on a vu que l'agriculture moderne, l'agriculture conventionnelle a des limites et qu'il faut la faire changer, la faire évoluer. Et quand on parle des alternatives qui existeraient, on ne sait pas vraiment à quoi concrètement, enfin, ce que ça pourrait être et comment les mettre en place. Donc c'est de là qu'est venue notre idée d'aller voir directement des personnes qui le font et qui le vivent pour voir ce que c'est.
Bonjour Joachim Duté, que l'on vient d'entendre se présenter, est allé, nous reprenons ces termes, à la rencontre d'acteurs de mouvements agricoles prônant une agriculture durable, indépendante et épanouissante afin d'apprendre de leurs expériences. Ce qui l'a conduit en Australie, en Inde et au Japon, ce qui le conduit aujourd'hui en France. Interview réalisée à Nantes à l'occasion de la 2e édition d'Alternatiba.
Alors concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la rencontre d'agriculteurs.
Vous dites agriculteur, pas paysan.
Je ne dirais pas exploitant agricole, je dirais agriculteur ou paysan, qui pratique du coup une agriculture de petite taille, très diversifiée, qui emploie du monde, etc., et qui vend surtout localement. Et on passe un petit peu de temps avec eux, et on fait un petit film. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit film sur leur ferme, sur leur initiative, qu'on diffuse ensuite lors d'événements de sensibilisation, comme aujourd'hui à Alternatiba, ou auprès de, enfin, dans des écoles ou des choses comme ça, quoi. Il y a 2 ans, j'ai fait un voyage en Australie, en Inde et au Japon, au cours duquel j'ai travaillé dans des fermes qui sont en biologie, enfin des fermes en agriculture biologique, en permaculture, en agriculture naturelle, qui développent tout ce genre de choses. De ce que j'ai pu voir, enfin des agriculteurs que j'ai pu rencontrer, c'est des personnes qui vont développer des fermes très diversifiées, qui vont mélanger les productions, chercher à créer un écosystème le plus diversifié, le plus durable possible, pour produire à la fois une diversité de production, mais aussi diminuer le recours aux intrants, et qu'ils soient phytosanitaires ou engrais azotés, parce qu'en fait le mélange permet de créer quelque chose qui va se stabiliser de lui-même, en fait, un milieu qui va se stabiliser de lui-même. C'était la principale tendance, et aussi des agriculteurs qui vont chercher à transformer leur production sur leur ferme ou s'associer avec d'autres agriculteurs pour le faire, et qui vont chercher aussi à commercialiser leurs produits localement, qui vont privilégier les filières courtes, qui sont plus stables, dont le prix aussi est plus stable parce que les gens ont toujours besoin de manger et vont payer toujours le même prix, et vont aussi produire aussi des cultures qui vont rapporter plus d'argent, qui vont être destinées aux marchés internationaux, par exemple le café, le sucre, ce genre de choses, qui rapportent de l'argent et qui est facile à produire. Enfin, qui est facile à produire sur des grandes surfaces et sur des grandes quantités.
Est-ce que ce sont des agriculteurs ou des paysans qui ont exercé selon un mode plus classique ?
Pour ce que j'ai vu en Inde, enfin je prends l'Inde comme exemple parce que c'est assez marquant d'un point de vue agricole. J'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs qui sont aujourd'hui en bio et qui développent des fermes vraiment de petite taille, très diversifiées, ancrées sur leur territoire. Et quand je discutais avec ces personnes, elles me disaient que quand la révolution verte est arrivée en Inde, la révolution verte c'est les produits, les engrais azotés, les produits phytosanitaires, les semences améliorées qu'on leur vend. Quand ces choses sont arrivées sur leur territoire, ils ont été les premiers à les utiliser pour développer l'agriculture. En fait, c'est des agriculteurs avant-gardistes qui vont chercher à s'émanciper, à développer leur activité. Donc ils ont testé ces choses-là. Et après 2-3 ans d'expérience, ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils avaient gratuitement avant sur la ferme, à savoir ils récoltaient leurs semences, ils avaient des vaches qui produisaient du compost, qu'ils mettaient sur leur culture. Toutes ces choses-là, elles étaient remplacées par des produits qu'ils devaient acheter. Et donc ils utilisaient beaucoup d'argent, ils dépensaient beaucoup d'argent pour produire certes plus, mais pour redépenser de l'argent après. Et du coup, ils ne comprenaient pas vraiment la cohérence de système, sachant qu'ils utilisaient des produits dont qu'ils voyaient bien qu'ils étaient néfastes pour... les phytosanitaires sont néfastes pour la vie. Et les engrais azotés nourrissent la plante, mais pas le sol. Donc ils voyaient aussi la qualité de leur sol décroître. Donc face à ce constat, en fait, ils m'ont tous dit on a tout de suite arrêté ces produits-là avant d'être complètement piégés et endettés. Et on est revenu un petit peu en arrière en réutilisant les savoirs traditionnels en fait, des parents, de la famille, et en les développant, en utilisant les connaissances agricoles, on va dire modernes, à travers tout ce qui est agriculture biologique, agroforesterie, l'agroécologie, qui sont des disciplines et des mouvements agricoles qui sont quand même assez bien développés et qui apportent des résultats. Et ils ont utilisé tout ça pour mettre en place des fermes plus durables.
C'est une prise de conscience ?
Pour ces agriculteurs-là, en fait, ça a été une prise de conscience assez rapide, étant donné que le climat en Inde est tropical, et dès qu'on a une pratique qui est mauvaise pour le sol ou l'environnement, on va voir les effets très très rapidement et de manière assez disproportionnée. Par exemple, un agriculteur qui va couper tous ses arbres sur sa parcelle pour faire une monoculture de riz, quand la mousson arrive et c'est des pluies assez fortes, s'il n'y a rien pour retenir le sol, il va voir tout de suite son sol partir. Et évidemment, ça va lui faire peur et ça va lui faire comprendre que les arbres, ils n'étaient pas là pour rien. Et que si les personnes avant elles avaient planté des herbes, c'était pour certaines raisons.
Alors là, c'est en Inde, mais en France, vous avez rencontré aussi des agriculteurs ?
Alors en France, le climat est un peu différent, ce qui fait que les choses sont plus lentes à voir apparaître. On va dire que les mauvaises pratiques vont avoir des conséquences, pardon, mais plus sur du long terme. Et depuis quelques années, on voit vraiment une réelle prise de conscience chez les agriculteurs du risque engendré sur la santé par les produits phytosanitaires, par exemple, et le problème engendré par l'agrandissement, l'agrandissement, la spécialisation des fermes qui crée un endettement. Et beaucoup d'agriculteurs se posent de plus en plus la question de la pertinence de ce modèle-là. Donc il y a des choses qui changent, des jeunes qui s'installent et qui veulent développer des systèmes de production totalement différents, des fermes en maraîchage très diversifiées qui vont chercher à transformer, à vendre localement, à faire de l'éducation, de la sensibilisation, qui vont vraiment diversifier leurs activités, pas vraiment faire que de l'agriculture, mais vraiment un ensemble de choses. Et en parallèle, il y a des agriculteurs qui cherchent à installer des jeunes sur leurs fermes. Même si c'est des minorités, ça existe et ça bouge.
Et vous en avez rencontré beaucoup ?
J'en ai rencontré on en a rencontré quelques-unes à travers les activités de l'association. Donc après être parti voyager, pour ma part, parce qu'on a d'autres personnes qui sont en voyage, mais après être parti voyager, il m'a semblé pertinent d'aller à la rencontre des acteurs, des agriculteurs français ou des acteurs agricoles français qui développent le même genre de choses que j'ai pu voir à l'international, mais qu'ils le font en France, pour voir à quoi ça ressemble. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Et donc on en rencontre régulièrement sur tout le territoire français et en Loire-Atlantique. Il y en a quelques-uns.
C'est pas quelque chose de nouveau, au fond. Il y a des personnes comme André Pochon, je ne sais pas si vous êtes penché un peu sur ses écrits, sur ses pratiques.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qu'on fait ressortir. C'est pour ça que beaucoup, enfin quand on parle de ce type d'agriculteur, on va dire que les générations passées vont tout de suite voir ça comme un retour en arrière. Mais disons que c'est un peu différent dans le sens où on va remettre en lumière des choses qu'on a oubliées, enfin qu'on a perdues, et qu'on va les développer mais différemment, qu'on va les réactualiser finalement. Donc c'est pas vraiment un retour en arrière. Disons qu'on va ressortir des choses qui étaient pertinentes et qu'on a supprimées bêtement. Pour faire mieux.
Et alors vous ?
J'ai fait une école d'ingénieur en agriculture à Angers.
Ouais, donc vous étiez fabriqué ?
Disons que pendant notre formation, on nous apprend à travailler dans le monde dans lequel on vit et répondre aux attentes du milieu professionnel dans lequel on va travailler. Pour ce qui est de l'agriculture, évidemment, on a appris ce qu'est l'agriculture conventionnelle et comment la faire. Et aussi, on a vu quelles sont ses limites et quelles étaient les pistes pour améliorer cette agriculture. On a certes appris l'agriculture conventionnelle, mais on a aussi vu les alternatives telles que l'agroécologie, les techniques culturales simplifiées, ce genre de choses, pour nous préparer justement à faire évoluer cette agriculture.
Donc il n'y a pas un dogme au niveau de l'enseignement ?
Non. Non, il n'y a pas vraiment de dogme. Enfin, on peut le ressentir sur ce... Non, non.
Vous n'êtes pas au service de l'agriculture intensive.
Disons que la majorité des fermes en France sont des exploitations qui sont très spécialisées, qui sont très conventionnelles, qui sont intensives en utilisation d'intrants chimiques. Et donc, on nous apprend à travailler avec ces personnes, avec les agriculteurs qui développent ce genre d'agriculture, parce qu'il faut bien qu'ils vivent de leur activité. Et même si leurs pratiques ne sont pas durables à terme, il faut les comprendre pour les faire évoluer et travailler demain avec les agriculteurs pour les aider à changer et faire en sorte que ça soit rémunérateur, toujours aussi rémunérateur pour eux.
Vous êtes jeune ?
Ouais, 27 ans. Ouais.
Je suppose que vous rencontrez des professionnels de la profession qui sont beaucoup plus âgés que vous. Comment ils vous reçoivent ? Quel crédit ils vous donnent ?
Il y a deux types de réactions vis-à-vis de ce genre de choses. Donc il y a des personnes, ça va tout de suite les faire penser à ce qu'ils avaient vécu avant la Révolution verte. Et il faut dire que l'agriculture avant la Révolution verte, c'était un métier qui était assez difficile, où on travaillait énormément pour ne pas gagner beaucoup d'argent. Ce qui fait que quand on parle d'un agriculteur qui a vécu ce genre de choses, de revenir sur des techniques qui font penser à ce modèle-là, tout de suite ils vont penser à tout ce qui est des travail pénible, des salaires pas très décents, au fait d'être enfermés dans leur ferme. Donc ils ne vont pas vouloir y revenir. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui ont un peu moins mal vécu la chose et qui vont en tout cas ne pas être fermées à une évolution, qui retournent vers quelque chose qu'ils avaient pu vivre avant, qui vont être motrices pour accompagner les jeunes qui n'ont pas forcément vécu ce genre de choses, à remettre en place de la diversification, de l'élevage extensif, refaire des cultures oubliées, remettre en lumière en fait des savoirs qui ont été mis de côté pendant une génération.
C'est vous qui allez au-devant des agriculteurs ?
Alors, du coup, ce qu'on fait, c'est que, disons qu'on a un idéal agricole dans l'association, et on cherche à l'illustrer en allant voir des personnes qui le développent. Donc on sélectionne les initiatives qui vont développer ce qu'on cherche à montrer. Et notre idée n'est pas forcément de défendre un modèle agricole, enfin de promouvoir une agriculture paysanne et biologique, mais c'est plus de montrer que l'agriculture, ce n'est pas seulement une agriculture conventionnelle qui est gourmande en intrants, etc. C'est de montrer qu'il existe énormément de choses qui sont différentes et qui ont chaque agriculture, en quelque sorte, a ses avantages et ses inconvénients, et de montrer que finalement elle est multiple, qu'il existe énormément de façons de faire et de travailler différentes. Et c'est cela qu'on recherche avant tout, c'est vraiment susciter l'interrogation, le questionnement, pour que les personnes commencent à se poser des questions sur leurs propres pratiques, sur ce qu'elles vivent au quotidien, et commencer à entamer un débat en fait.
Vous avez une autre activité professionnelle à côté ?
Oui, tout à fait. Donc, depuis un an, je suis salarié agricole chez mes parents, qui ont une ferme en agriculture biologique à côté de Rennes, dans laquelle je travaille à temps partiel depuis un an, voilà, c'est ça. En fait, depuis que je suis rentré de mon voyage, j'ai voulu garder une activité qui est de plein air dans le milieu agricole, donc c'est pour ça que je me suis salarié chez mes parents, qui développent énormément de choses aussi. On fait de la production laitière et porcine en bio, on transforme une partie de notre production, on fait beaucoup de ventes directes, donc il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à développer. Le potentiel de création d'emplois est assez élevé si on s'y met les moyens, et donc il y a beaucoup de choses à faire. Ouais.
Vous baignez dedans, si j'ose dire.
Oui, tout à fait, oui.
Avec l'idée de reprendre l'exploitation ?
C'est quelque chose que j'envisage de plus en plus. Disons d'avoir une activité dans l'agriculture et d'en vivre pleinement, et de développer des projets de diversification avec d'autres personnes sur de nouvelles productions, des nouvelles activités, de la transformation, de la vente directe. Les fermes actuelles sont assez spécialisées et commercialisent surtout en filière longue. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour les diversifier et relocaliser du coup la production et la commercialisation, la consommation. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de potentiel de création d'emplois envisageable en agriculture aujourd'hui.
Votre regard sur les dernières manifestations des agriculteurs ?
Disons qu'elles sont relatives à un système qui arrive à bout de souffle, et ce genre de crise sont symptomatiques de cela, oui. D'un système qui pousse les agriculteurs à se spécialiser, à toujours mécaniser, à toujours investir de plus en plus pour gagner en compétitivité et subsister en fait. C'est quelque chose qu'on oblige un petit peu à l'agriculteur.
Joachim Duté, président de Terre d'Initiative, est l'invité du magazine.
Et ce genre de crise montre que ce système n'est pas forcément celui à suivre s'il a fonctionné pour répondre à la demande alimentaire, enfin à nourrir les Français dans les années 50-60. Il est aujourd'hui plus forcément pertinent et il faut le faire évoluer pour qu'il puisse répondre aux nouveaux enjeux de l'agriculture qui est d'entretenir les territoires, les paysages, respecter l'environnement, dynamiser les territoires, recréer un tissu social en milieu rural et évidemment produire des aliments en quantité et en qualité qui soient sains pour l'homme et la nature.
Il y a des méthodes pour procéder à la bascule ?
Disons que chacun peut participer à ce changement. Donc déjà en premier lieu, le consommateur. Chaque personne peut s'engager et défendre un modèle agricole en achetant des produits locaux qui sont produits d'une certaine manière. Il y a le label agriculture biologique qui est bien identifié, qui certifie, qui garantit des bonnes pratiques agricoles, même s'il a des limites. Donc acheter des produits bio locaux est déjà une bonne façon de soutenir l'agriculture paysanne et biologique, et aussi de les acheter directement aux producteurs ou via des AMAP ou des magasins de producteurs, où on va diminuer le nombre d'intermédiaires, donc on va garantir un meilleur prix d'achat aux producteurs, on va mieux le rémunérer. Et ensuite, on peut acheter aussi les produits qu'on ne trouve pas localement en grande surface ou dans les biocoop, ce genre de magasins qui sont plus filières longues. Il y a aussi les politiques publiques qui peuvent soutenir les formes d'agriculture paysanne et biologique en tout simplement en offrant des subventions pour que les agriculteurs aillent vers ce type d'agriculture. Donc les accompagner financièrement. Et après, les agriculteurs, évidemment, ont aussi leur mot à dire en étant moteur et en s'entraidant pour développer ce genre d'agriculture. Par exemple, chez mes parents, ça peut se traduire par une diversification des activités en installant un maraîcher sur la ferme. Nous, on est une ferme spécialisée en production laitière et porcine, et ça serait tout à fait envisageable d'installer un maraîcher ou de planter des arbres fruitiers pour avoir une production supplémentaire. Et finalement, transférer nos productions vers quelque chose de plus diversifié. Faire non pas deux productions en grande quantité, mais faire plusieurs petites productions qui vont ensemble être cohérentes.
Quand vous dites que le label bio a ses limites...
Le cahier des charges biologique a le mérite d'exister et certifie un certain nombre de bonnes pratiques qui vont dans le sens de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, à la base, c'était un concept agricole où les personnes qui l'ont pensé... décrivait la ferme comme étant un organisme agricole qui mettait en place différentes productions qui étaient complémentaires, qui allaient développer des marchés locaux pour rémunérer décemment l'agriculteur. Donc tout un ensemble de choses, et ça s'est matérialisé à travers la construction d'un cahier des charges pour pouvoir certifier en fait les agriculteurs qui respectent ces principes. Donc les limites du cahier des charges, c'est bien entendu d'essayer de prendre en compte beaucoup de choses différentes, parce que le cahier des charges biologique est fait pour les maraîchers, pour les éleveurs, pour ceux qui font des arbres fruitiers, etc. Donc il y a un ensemble de pratiques assez large à prendre en considération. Et ce qui fait qu'il est souvent, on le critique souvent pour être un peu trop large. Mais pour autant, il a le mérite d'exister et de certifier les produits sans engrais chimiques, sans produits phytosanitaires. Et ça certifie quand même des bonnes pratiques. Mais après, voilà, le cahier des charges n'a pas un impact concrètement sur la façon de travailler de l'agriculteur, à part sur le fait qu'on lui interdise un certain nombre de pratiques. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes critiquent l'agriculture biologique, parce que la tendance, le risque avec l'agriculture biologique, c'est qu'elle reproduise les systèmes conventionnels, c'est-à-dire des systèmes qui soient spécialisés et très intensifs, mais en autre chose qu'en produits phytosanitaires, en intrants chimiques, vu qu'ils sont interdits, et qui reproduisent en fait ce schéma qui est obsolète, parce que l'agriculture biologique à la base, c'est un mode de production qui garantit la diversité. Donc de mélanger, d'associer les productions ensemble pour établir un écosystème qui soit le plus proche possible du fonctionnement naturel des écosystèmes, et de fait qui nécessite plus l'usage d'intrants phytosanitaires et d'engrais, vu que tout va se dérouler grâce au processus naturel des écosystèmes. Par exemple, on met une plante qui va attirer un insecte qui va manger celui qui va s'attaquer à notre blé, par exemple. Donc le mélange de production, comme ça, intelligemment, on peut réguler les attaques d'insectes, on peut réguler aussi les invasions de mauvaises herbes. peut réguler aussi les invasions de mauvaises herbes en mettant une culture qui va couvrir le sol, etc.
C'est pas interdit par le label bio ?
Ah non, pas du tout, mais le label bio ne suggère pas forcément le recours à ces pratiques qui sont bonnes pour l'environnement. On peut tout à fait mettre en place une ferme en agriculture biologique qui va développer seulement 3 productions, 3 cultures par exemple, et qui vont toujours tourner, et qui va... où les infestations de mauvaises herbes vont être récurrentes. L'agriculture biologique, on l'associe souvent au cahier des charges, mais ce n'est pas seulement un cahier des charges, c'est aussi un modèle de conception de l'agriculture qu'il faut prendre en considération. Si on veut parler de l'agriculture biologique, il faut parler de l'ensemble, en fait.
Il y a des panneaux solaires, des éoliennes sur l'exploitation de vos parents ?
Malheureusement, non.
Est-ce qu'on peut peut-être décliner ?
C'est vrai que là où on parle d'énergie, c'est vrai que l'agriculture peut être aussi un secteur d'activité productif d'énergie. Lorsque j'étais en Inde, en fait, j'ai vu beaucoup de maisons familiales qui avaient leur atelier de méthanisation derrière la maison, en fait. Et l'agriculteur, tous les matins, allait chercher donc la bouse de vache dans l'étable et allait le mettre dans le méthaniseur pour produire du biogaz. Et du coup, sa femme cuisinait le midi avec le gaz issu de la fermentation, en fait, de la bouse de vache. Et c'est quelque chose en Inde qui est très développé dans certaines régions et qui permet de produire... de l'énergie grâce à un déchet qui n'en est pas un, qui peut produire de l'énergie et qui peut aussi fertiliser, enfin qui fertilise aussi les sols et entretient la fertilité.
Donc qui pourrait être mise en place chez vous ?
Qui pourrait être mise en place chez nous, oui.
Et alors le frein ?
Le frein, c'est acquérir la compétence parce qu'on n'a jamais fait ce genre de choses, on ne maîtrise pas du tout la technique, donc déjà acquérir les compétences et puis prendre le temps de faire ça. Mais ça serait super intéressant, oui.
Il faut inviter un groupe d'Indiens.
Oui, par exemple. La méthanisation se développe beaucoup en France. Elle se développe à des échelles démesurées. Enfin, disons qu'on a tendance à toujours mettre en place des projets. On voit les choses en grand. Alors que ce que j'ai pu voir en Inde, c'est plutôt un petit atelier de méthanisation individuel pour la personne. C'est pas vraiment quelque chose qu'on va raccorder au réseau de gaz de ville, de la ville de Nantes, par exemple. C'est deux choses assez différentes. Pour nous qui sommes agriculteurs, enfin chez mes parents en tout cas, développer un petit atelier individuel de méthanisation, c'est bien pour notre autonomie. Mais si on veut gagner un peu d'argent ou développer à plus grande échelle, ça demande plus de compétences et plus d'investissement.
Ma dernière question, votre regard sur Alternatiba ?
Alternatiba, c'est quelque chose d'assez génial, je trouve. C'est un événement qui permet de rassembler sur le même lieu, au même moment, beaucoup d'acteurs associatifs, de collectivités qui militent pour développer une autre société, qui se rassemblent pour mutualiser un petit peu leurs compétences qui sont différentes. Donc, par exemple, moi je travaille pour tout ce qui est agriculture, mais je vais rencontrer quelqu'un qui va travailler pour l'économie sociale et solidaire, pour les énergies renouvelables. Donc c'est vraiment un centre très intéressant pour se retrouver, s'identifier et pour réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire pour l'avenir.
Merci à Joachim Duté, président de Terre d'Initiative, pour sa libre participation à ce magazine, reportage enregistré à Nantes, dans le cadre de la deuxième édition d'Alternatiba.